Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Je suis aujourd'hui en conversation téléphonique avec Juliette Fournier de l'atelier de réflexion et d'enquête critique PMO qui est basé à Grenoble, ça veut dire pièces et main d'œuvre, et qui ont été invités à l'instigation de l'association CERA Santé Environnement Rhône-Alpes à l'occasion de la projection vendredi au Pestel à 18h du film Mouton 2.0 à propos du puçage électronique des moutons et des hommes. Juliette Fournier, bonjour.
Bonjour.
Alors oui. Donc vous êtes venue à l'occasion de ce film Mouton 2.0. Alors je suppose que vous n'êtes pas pour le puçage des moutons et des hommes.
Vous supposez bien, effectivement, le film, donc Mouton, il s'appelle Mouton 2.0, La puce à l'oreille. Il a été réalisé par deux jeunes documentaristes qui s'appellent Florian Pourchier et Antoine Costa. Et ce documentaire, en effet, critique donne la parole, disons plutôt, à des bergers et des éleveurs de moutons et de chèvres qui s'opposent au puçage électronique de leurs moutons et de leurs chèvres. Et nous-mêmes, à pièces et main d'œuvre, c'est un sujet que nous traitons depuis des années. Ça fait 10 ans, en fait, que nous nous intéressons à ces questions-là. Et c'est pour ça que, donc, l'association CERA nous a demandé de venir débattre, après la projection, des enjeux et des raisons de notre opposition au puçage électronique et pourquoi, à notre avis, il serait urgent que tout le monde s'intéresse à cette question-là.
Alors, pourquoi faudrait-il que nous nous intéressions à ce sujet, alors?
C'est un phénomène intéressant qui est en fait la manière dont une technologie est en train de se disséminer dans nos vies pour les transformer complètement sans qu'on s'en rende compte, en fait, à notre insu. Alors la technologie en question, c'est ce qu'on appelle les puces RFID. Alors c'est déjà un peu barbare comme terme. RFID, ça veut dire radiofréquence identification. Et c'est des puces électroniques qui ont la particularité de communiquer les informations qu'elles contiennent à distance. Donc, y a certaines personnes qui connaissent déjà ça. Vous savez, quand on passe à l'autoroute sans s'arrêter, quand on a un badge sur son pare-brise, ça, c'est des puces RFID, par exemple. Donc, ça permet de lire à distance que vous avez bien payé votre péage, ça débite votre compte, c'est automatique. Voilà. Et donc, en fait, ces puces RFID, on est en train d'en mettre partout. Et quand je dis partout, il faut imaginer que c'est dans chaque chose et dans chaque être vivant sur cette planète. Ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais c'est ce qui est en train de se passer. Donc là, par exemple, les moutons, c'est un bon exemple, parce que tout d'un coup, on se dit, mais enfin, on va mettre une puce électronique sur des moutons. Oui, mais en même temps, on est en train d'en mettre dans nos passeports biométriques. Ils sont équipés d'une puce RFID. On en met dans les cartes de transport, dans les grandes villes, ou dans les réseaux de transport, même régionaux, dans les cartes sans contact. Vous savez, chaque fois que vous avez une carte qui permet de valider, mais sans la rentrer dans un lecteur, on a juste à la passer devant, boum, comme ça, ça bip automatiquement. On en met dans les vêtements, dans les produits de consommation qu'on achète dans les magasins. On en met dans les livres des bibliothèques, par exemple. Donc, ça permet d'enregistrer automatiquement vos mouvements de livres, quoi. Mais on en met aussi dans les arbres à Paris, par exemple. Aussi bizarre que ça puisse paraître, les arbres parisiens sont pucés. Et on en met aussi dans des gens, sous la peau d'êtres humains, puisqu'il y a déjà quelques milliers d'humains sur cette planète qui ont des puces RFID sous la peau pour les identifier. Donc en fait, c'est une technologie qui est en train de se répandre partout. Peut-être que pour nos auditeurs, il y a un exemple qui va leur parler, qui est le compteur Linky. Vous savez, le compteur EDF intelligent, comme ils disent, qui va être installé normalement dans les prochaines années dans tous les foyers. Et ce compteur Linky, il sera équipé d'une puce RFID. Et donc, c'est un bon exemple pour comprendre ce que c'est qu'une puce RFID, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir suivre votre consommation électrique à la maison, minute par minute, à distance, c'est-à-dire c'est quelqu'un ailleurs, derrière un écran, de façon totalement anonyme, quoi, lointaine, qui saura que vous avez pris une douche ou que vous faites fonctionner votre aspirateur, etc. Et qui qui donc fera le relevé du compteur à distance sans se déplacer. Donc ça permet aussi de supprimer des postes, évidemment, beaucoup de postes, les gens qui relèvent les compteurs, et ça supprime tout contact humain, en fait. Par exemple, le préposé au relevé des compteurs qui vient et puis qui tombe sur une famille qui n'a pas payé depuis longtemps et qui essaye d'expliquer qu'elle est dans une situation difficile, si on pouvait lui laisser un peu de temps pour payer sa facture, etc., et qui peut se laisser apitoyer. Ça c'est fini, c'est-à-dire qu'on coupera l'électricité automatiquement, il n'y aura plus d'intervention humaine. Voilà, donc c'est une des raisons qui font que nous on est opposés à cette technologie-là, c'est qu'en fait elle a pour vocation à supprimer tout l'humain, quoi, finalement, et à informatiser toute notre activité sans qu'on ait plus rien à faire, quoi. Voilà.
Vous avouerez quand même qu'il y a certains boulots qu'on ne regrettera pas forcément. Enfin, je sais pas. Hein. Je pense à la caissière du supermarché. Des fois, effectivement, on dit oui, c'est un scandale. Bientôt, il n'y aura plus de caissière. Il n'y aura plus que des caisses avec des rayons optiques. Bon, d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment très important d'avoir une caissière ? Enfin, vous me dites effectivement, ce serait important parce qu'on peut avoir un contact humain avec une caissière. Je vous avouerai que j'en ai très peu avec les caissières. Voilà.
Alors, en fait, c'est sans doute parce que vous parlez des supermarchés. Alors, moi, je ne vais pas dans les supermarchés, par exemple, parce qu'en effet, je trouve que c'est des endroits totalement déshumanisés et que pour avoir un contact avec la caissière, la pauvre, elle est tellement pressée et il faut qu'elle fasse son boulot de façon tellement tendue que c'est difficile. Enfin, on peut quand même arriver à échanger une blague, un sourire ou quelque chose. Ceci dit, effectivement, dans les commerces de proximité, on est content d'avoir affaire à des êtres humains. Mais si on se met de l'autre côté de la caisse, c'est-à-dire si on est le citoyen lambda, on peut avoir aujourd'hui passé une journée entière, je sais pas, aller acheter un billet de train à la SNCF, retirer de l'argent à un guichet, faire ses courses, poster une lettre, même voter, passer à la cantine, sans jamais s'adresser à un être humain. On peut finalement ne plus avoir affaire qu'à des machines. Et ça, quand même, ça pose un problème, me semble-t-il. On n'est pas les seuls à le dire, nous, à Pièces et Main-d'œuvre. Ça fait plusieurs années que le médiateur de la République, qui est une sorte d'institution chargée de recueillir un peu les doléances des Français, ça fait plusieurs années que le médiateur de la République donc rend un rapport dans lequel il dit « Alerte, la société française est en état de burn-out », ça veut dire pas loin de la dépression collective.
Le surménage.
Parce que ils appellent ça le syndrome « taper étoile ». Vous savez, quand vous téléphonez à un service quelconque et que vous n'avez pas affaire à des gens, mais à des machines qui vous disent si vous voulez faire ça, tapez 1, tapez 2, etc. Et les gens deviennent fous, quoi. Il y a une sorte de violence sociale très forte liée à l'impossibilité de parler à quelqu'un, quoi, tout simplement. Voilà, donc c'est sans doute quelque chose qui traverse la société de façon un peu souterraine, mais je crois que chacun peut se reconnaître dans ce constat et l'a vécu au moins une fois récemment, quoi.
Et alors, quels sont les autres usages des puces RFID ? Parce que ça, c'est pour les hommes, les usages pour les hommes, enfin, pour s'en passer plus exactement. Mais oui. Pourquoi mettre une puce RFID à l'intérieur de l'oreille d'un mouton, alors ?
Alors, c'est la même logique, c'est-à-dire que, si vous voulez, la logique de base au puçage universel, c'est l'idée qu'il faut tout rationaliser et optimiser. C'est un langage un peu barbare, mais qui est le langage de l'industrie et de l'économie, tout simplement. Et c'est l'idée que tout dans nos vies serait considéré soit comme du flux, soit comme du stock. Alors, par exemple, des automobilistes sur une autoroute, c'est des flux, hein, vous voyez, de voitures. Des malades dans un hôpital, on va considérer que c'est des flux. Enfin, voilà, comme si on était tous un peu comme des marchandises. Et donc, il faut que tout soit optimisé et que les flux et les stocks soient gérés de manière la plus rationnelle possible pour baisser les coûts, aller toujours plus vite, plus haut, plus fort. Bon, c'est toujours la logique économique, quoi, hein, tout simplement. Et donc, on va appliquer ça notamment aux troupeaux. Et on va dire aux éleveurs, écoutez, vous allez rationaliser votre activité. Quand vos moutons seront pucés, vous pourrez les gérer comme on gère, par exemple, des marchandises dans un supermarché.
Mettre leur dossier médical.
Alors, il y aura tout. C'est-à-dire que le mouton, bon, déjà, il a plus de nom, évidemment. On met plus de nom au mouton, mais là, il a un numéro. Et l'éleveur, il n'a plus besoin de reconnaître chaque bête, de savoir où elle en est, de si elle est malade, si elle va mieux, ou qu'est-ce qu'elle a fait ces derniers temps, etc. Tout est enregistré dans l'ordinateur. Chaque fois que le mouton, il passe à proximité d'un lecteur, puisqu'on équipe aussi, évidemment, les structures, donc les étables, etc., avec des lecteurs, ça bip. Comme les marchandises sur un tapis roulant, quoi. Donc on bip les animaux, on peut décider que on va faire un tri entre les moutons, par exemple, je dis n'importe quoi, ceux qui ont tel âge doivent aller dans tel parc et puis les autres dans tel autre parc. Au lieu que ce soit le berger qui le fasse, l'éleveur qui le fasse parce qu'il connaît ses bêtes, c'est la porte automatique qui s'ouvre selon que c'est tel numéro de puce qui s'affiche. Bon, en fait, l'idée, c'est que ça soit une gestion informatisée du troupeau, quoi. C'est-à-dire que de la même manière qu'on a remplacé les humains dans les, bon, bah, dans les usines, dans les services, que je disais tout à l'heure, on va aussi remplacer les éleveurs. Et puis, c'est une gestion un peu robotisée de l'élevage, quoi. Évidemment, quand on a une agriculture complètement industrialisée de masse avec des troupeaux énormes, que on pilote, les tracteurs sont pilotés par satellite. Maintenant, c'est vrai que l'agriculture c'est plus très champêtre. L'aboutissement de la logique, c'est ça, c'est-à-dire on puce les moutons et on les traite comme les marchandises qu'ils sont, quoi. Voilà, c'est un peu une vision des choses. C'est pas juste de la technologie. La technologie, elle comporte toujours une vision du monde et une vision de la manière dont on interagit avec les choses autour de nous, quoi. Là, c'est très clairement la vision purement rationnelle, mécanisée,
Big Brother,
et industrielle, quoi. Voilà, c'est une vision industrielle de la vie, quoi, tout simplement.
Et alors donc, qu'est-ce que vous préconiseriez pour éviter cela? Arrêter tout ce développement et revenir aux stylos, aux abacs, aux bouliers?
J'ose dire que j'utilise encore des stylos. C'est une très bonne question parce que très souvent on nous demande mais alors vous êtes contre le progrès? Et finalement, nous, on pense qu'il est plus intéressant de retourner la question et de se demander si le progrès est pour ou contre nous. Hein, c'est-à-dire que le progrès technologique en soi n'est pas une valeur. C'est pas parce qu'on fait plus vite, plus haut, plus fort que c'est mieux. Donc nous, ce qu'on dit, c'est il faut inverser les choses, c'est-à-dire se demander de quoi on a besoin, au lieu de dire on sait faire ça, alors faisons-le et ça sera forcément mieux, quoi. Non, il y a plein de choses qui montrent que c'est pas forcément mieux. Donc en ce qui concerne l'élevage, il est évident que les éleveurs n'ont pas besoin de puces électroniques, ils le disent eux-mêmes, hein. Ceux qui viendront voir le film s'en rendront compte très très facilement. Voilà, les bergers dans le film, les éleveurs, ils expliquent qu'ils ont toujours reconnu leurs moutons. Quand ils partent en transhumance avec des moutons qui viennent de plusieurs troupeaux, de plusieurs propriétaires, ils savent les distinguer, il n'y a aucun problème. Enfin, voilà, il n'y a absolument pas besoin de ces puces électroniques. Et nous, effectivement, on pense qu'il faut absolument s'opposer au puçage de tout et de tous, parce que c'est une révolution de nos vies qui va dans un sens, en tout cas qui mérite d'être compris et interrogé avant qu'on y aille à toute allure, quoi. Hein, parce que je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte. Mais je suis pas sûre que, connaissant vraiment bien les implications de cette technologie, de ce que ça va changer dans leur vie, ils y adhèrent finalement. Ça se passe parce que on le fait un peu à notre insu et qu'on prend pas le temps d'y réfléchir. Mais nous, on a fait énormément de réunions publiques, de projections, etc. Alors que ce soit avec le film Mouton 2.0 ou avec un film qu'on a réalisé avec un ami à partir d'un livre qu'on avait écrit qui s'appelle RFID, La police totale. On a fait beaucoup de projections avec ce film. Et les gens dans la salle, quand ils connaissent pas le sujet et qu'ils découvrent ça, ils sont consternés. Quand ils comprennent de quoi il s'agit, ils disent « Mais comment c'est possible qu'on nous impose ça et pourquoi on ne débat pas de ces questions ? Parce que ça va révolutionner nos vies, quoi. »
D'accord, alors vous n'avez pas tout à fait répondu à la question. Donc vous voulez interroger les citoyens sur savoir si cette révolution qui est en marche est pour ou contre nous. Mais grosso modo, c'est abandonner cette pseudo-innovation.
Nous là-dessus, on est clair. On est clair et on dit qu'on préfère un monde sans RFID à un monde avec RFID. Autrement dit, pour nous, il faut arrêter les RFID. Ça, c'est sans ambiguïté, oui.
J'entends bien, mais si vous renoncez au RFID, vous renoncez à créer un certain nombre d'emplois dans une industrie de pointe électronique pleine d'avenir?
Oui, absolument. C'est effectivement un sujet essentiel parce que à chaque fois, c'est l'argument qu'on nous oppose qui est de dire mais on crée des emplois, de la croissance, de la production, etc. Et en effet, l'industrie électronique compte beaucoup sur les RFID puisque ayant équipé presque tous les humains de la planète d'un téléphone portable, maintenant le nouveau marché, le nouveau vase d'expansion de l'électronique, c'est le puçage RFID de tout le monde. Et je viens de lire d'ailleurs un article sur le lobby un peu, hein, si vous voulez, de l'industrie électronique, qui est en train de relancer le gouvernement et notamment Fleur Pellerin, la ministre de l'industrie numérique, pour dire, dites donc, il faudrait relancer le projet de carte d'identité électronique. Donc après le passeport biométrique, maintenant ça sera la carte d'identité, parce que ça nous ferait un marché incroyable pour mettre des puces partout. Donc tout ça pour dire qu'en effet il y a une industrie là derrière très importante qui est liée, d'ailleurs nous à Grenoble on est bien placés pour le savoir, à tout le développement des nanotechnologies. Pourquoi ? Parce que les nanotechnologies permettent la miniaturisation des composants électroniques et donc on arrive grâce à ça à fabriquer des puces RFID de plus en plus petites, donc qui coûtent moins cher, qu'on peut fabriquer en plus grand nombre et donc on peut mettre partout. Et quand même, je signale qu'elles deviennent si petites que maintenant on parle de poussière intelligente. C'est-à-dire qu'il faut imaginer des puces qui sont comme des grains de poussière invisibles qu'on peut répandre dans l'environnement et qui vont tout enregistrer ce qui se passe là où on les aura semées en quelque sorte. Il faut quand même réaliser ce que ça représente. Donc oui, l'industrie électronique, les nanotechnologies, ce sont des marchés, ce sont des emplois, ce sont des investissements, etc., etc. Mais d'une part, si on s'intéresse vraiment à l'emploi, ça crée des emplois, mais ça en détruit un sacré paquet d'un autre côté, puisque j'ai expliqué tout à l'heure que ça supprimait les emplois de beaucoup de gens, puisqu'il s'agit de remplacer des gens par des machines. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. La numérisation de l'économie, ça va aller avec ce qu'on appelle pudiquement les gains de productivité, puisqu'on entend ça partout à la radio. Et quand on vous parle de gains de productivité, on veut dire qu'on met des gens au chômage. C'est ça que ça veut dire, hein. C'est-à-dire qu'on fait faire les choses par moins de monde. Donc ces puces-là, elles vont aussi détruire beaucoup d'emplois. Et puis nous, de toute façon, on est assez clair là-dessus, on pense que nos vies valent plus que nos emplois. C'est-à-dire qu'au nom de l'emploi, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas rendre la vie impossible, on ne peut pas créer des industries néfastes simplement au prétexte de donner un emploi aux gens. Pour en dire deux mots, l'industrie électronique qui fabrique ses puces est une industrie qui n'est pas propre. Hein. On nous fait souvent croire que l'informatique, c'est propre. Nous, à Grenoble, à côté de chez nous, là, on a la plus grosse usine à puces française, voire européenne, dans un village qui s'appelle Kroll, enfin, qui n'est plus un village maintenant, qui ressemble à une sorte de zone industrielle. C'est le plus gros investissement fait par la France en matière d'industrie depuis les dernières centrales nucléaires, donc c'est énorme. Et cette industrie-là, elle est très polluante, elle consomme des quantités d'eau faramineuses, c'est pour ça qu'ils se sont installés près de Grenoble, c'est pour pomper toute l'eau pure des glaciers et des montagnes. Donc ils engloutissent 700 mètres cubes d'eau à l'heure. Quand il y a eu la sécheresse en 2003, la canicule, les paysans de la vallée n'avaient plus d'eau, mais l'usine, elle, était approvisionnée prioritairement. Donc là, on voit bien que c'est l'industrie avant la vie, quoi. Ça consomme énormément de produits toxiques, chimiques, ça pollue, et dans les rejets aqueux, dans l'Isère notamment, dans les rivières autour, les pêcheurs le disent, les poissons, il n'y en a plus. Puis c'est très dangereux, quoi. Donc c'est aussi une industrie écologiquement problématique, socialement néfaste. Donc, nous, on ne voit pas de raison de la maintenir. Hein.
Alors, si je peux me permettre, j'avais lu quelque chose, hein, parce que les puces RFID, en fait, je jouais au Candide, mais j'en avais entendu parler. Et j'avais aussi entendu parler d'un petit fait divers qui avait lieu en Espagne. Alors, je ne sais plus si c'était Barcelone ou je ne sais pas, Valence ou je ne sais quoi.
Sans doute Barcelone.
Voilà, dans lequel les gens, plutôt des jeunes, des geeks, je dirais même, volontairement se faisaient injecter une puce RFID comme un porte-monnaie virtuel pour entrer sans sortir même pas leur portable, même pas leur porte-monnaie, pour entrer dans la discothèque. Et la question que je voulais vous poser, ne craignez-vous pas qu'une partie de la population soit enthousiasmée par les implications que ça puisse avoir, parce que vous avez votre opinion, est-ce qu'une partie de la population ne pourrait pas être partie prenante, quel qu'en soit le prix à payer, quel que soit le Big Brother qu'il y a derrière, pour le côté un petit peu fonctionnel, rationnel et efficace?
Oui, tout à fait. Cette histoire est connue. C'est effectivement une boîte de nuit qui avait proposé à des clients triés sur le volet d'avoir un statut de VIP, comme on dit, en ayant une puce sous la peau et qui leur permettait de payer leur consommation en scannant leurs bras comme ça sous le lecteur. Ça débitait leur compte, ouais. Effectivement, il y a une petite frange de la population, comme vous dites, les geeks, que ça amuse. Bon, moi, je pense que ça les amuse pas très longtemps et qui sont quand même pas les plus nombreux. Ceci dit, ils ont une influence considérable parce qu'ils donnent le ton, ils donnent l'air du temps, quoi, la mode. C'est ça qu'il faut faire et finalement, on finit par suivre parce qu'on se dit il faut être de son temps et y a un côté ludique, etc. Et c'est vrai. Alors, nous, on pense, en ayant étudié un peu ça de près, qu'il y a une toute petite partie de la population qui est spontanément très enthousiaste à l'idée de jouer avec ces choses-là, quitte à perdre beaucoup de repères. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, se mettre une puce sous la peau, c'est ça veut dire beaucoup de choses en matière de conception qu'on se fait de soi-même, du corps, du rapport aux autres, etc. La majorité de la population, elle est plutôt résignée, je dirais. Vous savez, on entend souvent les gens qui disent « ben oui, on n'arrête pas le progrès ». Mais quand ils disent ça, c'est pas tellement sur un ton enthousiaste. Souvent, c'est pour dire qu'est-ce qu'on peut y faire, c'est difficile, on a du mal à s'opposer à ce progrès qui nous dépasse. Alors, il faut être conscient du fait aussi que les industriels se donnent beaucoup de mal pour, comme ils disent, sensibiliser dès le plus jeune âge. Hein, ça, c'est une expression qui revient tout le temps. Il faut que les enfants s'habituent dès le plus jeune âge à ces nouvelles technologies. Ça, c'est une formule qu'on a pu lire dans beaucoup de rapports, notamment un fameux livre bleu qui avait été publié par l'industrie d'électronique il y a quelques années, et qui faisait en fait des recommandations au gouvernement pour assurer les marchés à l'industrie française. Et parmi ces recommandations, il y avait le développement de toutes les technologies de puces et de biométrie, notamment. Et il disait, la population, souvent, a des réticences vis-à-vis de ces technologies parce qu'elle craint pour sa liberté. Et donc, il va falloir prendre des mesures pour la rassurer et l'habituer. Et parmi les mesures qui étaient préconisées, il y avait habituer les enfants dès le plus jeune âge à la maternelle, par exemple, à des technologies d'identification biométrique, etc. Donc, il y a tout un travail de
propagande,
dépistage de l'opinion, quoi. Hein.
Oui, mais encore une fois, regardez ce qui s'est passé pour le téléphone portable. Qui ne sait pas que les ondes hachées du portable sont néfastes pour la santé, à part Bouygues et consorts. Tout le monde le sait et tout le monde est très content d'avoir un portable.
Là aussi, c'est une question sur laquelle on a beaucoup réfléchi. Je dirais, aujourd'hui, souvent nous les ingénieurs nous disent « Mais enfin, pourquoi vous plaignez? Vous avez bien le choix, vous n'êtes pas obligé. Personne ne vous oblige à avoir un téléphone portable, un ordinateur, Internet, etc. » C'est faux. Si vous cherchez du boulot aujourd'hui, que vous allez dans n'importe quelle agence d'intérim, même pour faire un boulot de manutentionnaire, voilà, on va vous demander un téléphone portable. Et si vous n'en avez pas, on va vous dire « Vous n'êtes pas sérieux, vous ne cherchez pas vraiment du travail. » Donc, il y a une contrainte qui de proche en proche, s'est imposée. Après, que la population, notamment jeune, hein, pour en revenir là, trouve ça marrant, ludique, pratique, etc., c'est évident, parce qu'on s'est quand même beaucoup donné de mal pour y mettre des applications ludiques, justement. Hein, et puis, qu'il y a une fascination pour les écrans, mais nul ne peut le nier. Placer un enfant de 2 ans devant n'importe quel écran, et vous allez avoir ce phénomène d'hypnose presque. Hein. Et personnellement, je trouve ça extrêmement inquiétant. Et je ne peux que, en effet, constater que, 80, je ne sais plus à combien on en est, mais enfin 99,5% de mes concitoyens sont équipés de la prothèse électronique indispensable à la survie dans le monde moderne.
Et peut-être dans quelques années, qui n'aura pas de puce RFID implantée ne pourra pas prendre le train?
Par exemple, ou bien ne pourra pas avoir accès aux soins, parce que une des manières de la vendre, au sens de nous la faire accepter, hein, et c'est déjà le cas aux États-Unis par exemple, c'est de pucer les malades. C'est bien pratique, parce que si vous avez votre dossier médical sous la peau, et que vous tombez comme ça en syncope au milieu de la rue, il n'y a plus qu'à vous scanner pour savoir que vous êtes allergique à ceci, cela, et que vous êtes cardiaque, et que... voilà. Donc c'est l'argument, évidemment, de la santé qu'on va toujours mettre en avant pour vous faire accepter ça. Mais effectivement, il n'est pas exclu que dans X dizaines d'années, ça paraît totalement incroyable aux futurs habitants de cette planète de se dire oh « ben, tu te rends compte, il y a 50 ans, les gens n'avaient même pas leur puce sur la peau, on se demande bien comment ils faisaient ». De la même manière qu'aujourd'hui, les gens se disent mais comment on faisait sans portable avant ?
Eh oui.
Alors, c'est ça la marche forcée du progrès technique. Une avancée chasse l'autre, et en plus, avec elle, il y a ce phénomène d'oubli. C'est-à-dire qu'on ne sait plus comment on faisait avant. Mais je vous assure, il y a encore 20 ans, les gens n'avaient pas de portable et ils s'en sortaient pas mal du tout.
Et donc, que faire si ce n'est pleurer et, ou alors devenir véhément
La première chose, c'est de savoir. Il y a un vieil adage qui dit « savoir, c'est pouvoir ». Donc, la première chose qu'on recommande aux gens qui nous disent « alors qu'est-ce qu'on peut faire ?» c'est de s'informer, mais par eux-mêmes. De pas laisser les autres penser à notre place, en quelque sorte. C'est pour ça que nous, Pièces et Main-d'œuvre, on dit qu'on est un atelier de réflexion et d'enquête critique. C'est parce qu'on pense que on ne peut pas avoir d'action efficace et même d'organisation, etc., si avant on n'a pas commencé par comprendre, savoir et essayer de penser par soi-même. Ça, c'est la première chose. Et on le sait bien, hein, c'est-à-dire que si on a une population d'individus bien informés, capables de raisonner, de comprendre, d'avoir un esprit critique, c'est plus difficile d'imposer un certain nombre de choses que si on a face à soi, sans être désobligeant pour les moutons, mais enfin un troupeau qui suit le chef, quoi. Hein, c'est une évidence, mais il est bon de la rappeler. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que il faut d'abord commencer par se réapproprier, par comprendre le monde dans lequel on vit et ne pas se laisser comme ça avoir l'impression qu'on maîtrise rien parce que ça va trop vite. Donc chacun peut, là où il est, essayer de s'informer, de comprendre, de réfléchir, de lire, de discuter avec ses voisins et d'essayer de se faire sa propre opinion sur ces choses-là. Et une fois qu'il l'a faite, de la faire connaître. Par exemple, le compteur Linky va arriver là bientôt dans les foyers. Alors on ne sait pas trop quand parce que ça a été déjà retardé, mais c'est pour bientôt. Disons l'année prochaine ou dans les 2 ans qui viennent. Bon, quand vous parlez avec les gens comme ça, au bistrot ou dans le bus ou avec vos amis, etc., la plupart disent « mais moi j'en veux pas ». J'en veux pas du compteur Linky, je suis pas d'accord. Bon, le problème c'est que si chacun reste dans son coin, il n'exprime pas les raisons de son refus, ben on va pas aller bien loin. Donc nous, on encourage vraiment chacun, et c'est possible. On n'a pas besoin d'appartenir ni même à un parti, à une association ou à quoi que ce soit, mais simplement à prendre en main les raisons de son refus et à les expliquer, à les exposer. Et ça consiste à quoi ? Ça consiste à prendre un papier, un crayon et à dire « voilà, moi je ne veux pas d'un compteur électrique Linky pour telle et telle raison, parce que je pense que ça va changer la vie dans un sens qui n'est pas celui que je souhaite ». Et puis en se renseignant bien là-dessus, on a des arguments, c'est assez facile quoi d'avoir des arguments. Et ensuite, on les fait connaître publiquement, on en parle à ses voisins, on fait circuler dans son boulot, etc. Et c'est comme ça que ça peut naître les mouvements de conscience, quoi, tout simplement.
Ben, Juliette Fournier, merci de toutes ces informations et de votre ambition de nous mettre au courant des dérives qui pourraient être fatales. En tout cas, comme vous dites, c'est l'air du temps, on est bien obligé, on fait avec. En tout cas, je rappelle la projection qui aura lieu le vendredi 1er février à 18h au Pestel, suivi d'un débat, si je ne m'abuse.
Absolument, c'est pour ça que nous venons, c'est pour débattre après le film avec tous ceux qui voudront bien venir. Pour ceux qui ne pourront pas venir et qui ont quand même envie de s'informer, signaler qu'on peut retrouver donc nos livres aux éditions L'Échappée en librairie, si on aime lire les livres papier. Donc c'est la collection Négatif aux éditions L'Échappée, et les libraires peuvent les commander. Donc voilà, c'est sous le nom d'auteur Pièces et Main-d'œuvre en général, mais on publie aussi d'autres auteurs. Et puis pour les fanas d'Internet, on peut aussi aller sur le site piecesetmaindoeuvre.com, retrouver les références de nos textes et de toutes ces informations.
Eh bien, Juliette Fournier, merci beaucoup et puis à très bientôt, peut-être à vendredi, pour ceux que ce sujet de société grave et angoissant étreint.
Eh bien, merci beaucoup et oui, je donne rendez-vous à vos auditeurs à vendredi.
Vendredi. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.